Alors, aujourd'hui, c'est le dernier cours qui traitera de l'éthique politique de Calvin. J'espère que vous ne saturez pas trop sur l'éthique politique de Calvin. Et j'espère que vous ne sortirez pas de ce cours tout tremblant en vous disant « Quelle chance que nous n'ayons pas été présents dans du vivant de Calvin !» Donc, simplement pour faire la transition. Nous avons commencé ce cours en vous montrant que ce qui rattache Calvin à la réforme, c'est bien la structure de la promesse et de la loi, c'est bien la place de la liberté, c'est bien la place de la grâce. Mais évidemment, la loi devient chez Calvin tellement centrale qu'elle finit par tout occulter. Et ce qui finit aussi par tout occulter, c'est le projet de la sainteté. Le projet de faire du peuple tout entier, de Genève bien sûr, mais plus largement, espère-t-il, de l'ensemble de la chrétienté, un peuple saint. Alors, je vous ai apporté l'autre jour ces gros volumes du commentaire de Calvin sur les livres de Moïse, un commentaire encore une fois qui est relativement peu connu, tout simplement parce que il a été réédité en latin à la fin du 19e siècle, mais il n'a pas été réédité en français depuis 1564, l'année même de la mort de Calvin. Mais ce texte est un texte tout à fait important puisqu'il présente finalement l'état final de la pensée du réformateur. Le passage que je vous ai mis sur vos feuilles, passage qui n'est pas numéroté tout simplement parce que c'est un long passage que je vous ai mis de manière presque intégrale, est ce que Calvin dit dans la préface de ce volume pour présenter ce qu'il appelle la doctrine de la loi. Que faut-il comprendre par la loi? Et comment en trouver non seulement une compréhension historique ou une compréhension qu'est-ce que Moïse aurait voulu faire en son temps, mais quelle est l'actualité de cette loi pour des chrétiens? Et ici, évidemment, Calvin a esquissé, en quelque sorte, déjà dans l'institution de la religion chrétienne. Pour ceux que ça intéresse, je vous renvoie au livre 2 et au chapitre 8 de l'institution, un chapitre qui donne ce que Calvin appelle une exposition de la loi morale. Mais ici, Calvin veut systématiser sa position. Il veut essayer, de donner la somme, comme il le dit. Alors la somme, ça veut dire à la fois tout et à la fois le sommaire de ce qu'on peut dire de la loi. Alors, nous allons tout d'abord parcourir ensemble ce texte pour le comprendre. Or, dit-il, il y a deux parties principales de ces quatre livres. Oui, parce qu'il faut vous dire que Calvin, dans son commentaire du Pentateuque, commente d'une part la Genèse, donc il suit le texte de la Genèse, et puis ensuite il met les quatre autres livres du Pentateuque. Vous savez qu'il y a cinq livres qui sont, dit la tradition, rédigés par Moïse, donc ces cinq premiers livres de la Bible, une fois que vous avez enlevé la Genèse, Calvin les met en forme d'harmonie. Forme d'harmonie, ça veut dire tout simplement sous forme de synopse. C'est-à-dire qu'il comprend très bien ce que la tradition historico-critique comprendra beaucoup plus tard, à la fin du XIXe siècle, que les quatre autres livres de Moïse, une fois qu'on a enlevé la Genèse, sont des couches littéraires qui commentent, dans des milieux assez différents, une même trame. Et Calvin met à jour cette trame et montre évidemment les parallèles qu'il y a, par exemple, entre le livre de l'Exode et le livre du Deutéronome. Donc il essaye de suivre, si vous voulez, non pas le fil du récit, mais plutôt le fil doctrinal qui sous-tend le récit. Donc c'est pour ça que, pour lui, il présente ça sous forme d'harmonie, sous forme de silence. Donc il y a deux parties, dit-il, principales de ces quatre livres, donc le Pentateuque moins la Genèse, à savoir, premièrement, les récits de l'histoire, puis la doctrine qui est là pour instruire l'Église de Dieu en vraie piété, alors ce qui est en italique, c'est moi qui l'ai mis en italique, laquelle contient en soi la foi et la règle de bien prier. Deuxièmement, à savoir les items, bon, en la crainte et au service de Dieu, et en laquelle, par ce moyen, la façon de saintement et justement vivre nous est montrée pour solliciter chacun à faire son devoir. Il y a donc, au fond, on pourrait dire, en quelque sorte, deux fonctions à la loi. L'une est de l'exhorter à la piété, l'autre est de l'exhorter à faire son devoir. Dans cette double finalité de la loi, vous retrouvez évidemment quelque chose que nous avons déjà vu à plusieurs reprises, qui est le sommaire de la loi, hein, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force, la relation à Dieu, première table, la piété, et puis d'autre part, aimer son prochain comme soi-même, la charité, la relation à autrui. Donc, au fond, on peut dire qu'il y a à la fois des obligations proprement religieuses qui règlent la relation à Dieu et des relations d'ordre éthique qui règlent la relation au prochain. Mais vous voyez bien que Calvin, tout en repérant évidemment cette double finalité de la loi, veut bien montrer que lorsqu'il s'agit de relations à autrui, lorsqu'il s'agit d'éthique, il s'agit d'abord de sainteté et d'abord de crainte et de service de Dieu lui-même. Bon, Calvin n'est pas du tout en train de vous dire ce qui concerne la religion, c'est votre piété, et ce qui concerne l'éthique, c'est simplement, finalement, la vie commune des hommes. Tout doit être lié par la crainte et le service de Dieu, à la fois la piété et la piété et la foi, et la manière de faire son devoir et de bien vivre, de bien et saintement vivre. Et puis il poursuit davantage, il y a double utilité, là aussi il y aura deux pensées, deux termes, double utilité de l'histoire contenue dans ces quatre livres, car la délivrance du peuple ancien nous est comme un beau et clair miroir, tant, premièrement, de la vertu inestimable de Dieu que de sa bonté infinie à dresser son Église et comme l'engendrer. Donc, la première utilité, finalement, de l'histoire biblique et du Pentateuque en particulier, est de montrer comment Dieu a la force, la vertu, de dresser son Église et de la faire naître. Vous remarquez bien tout de suite que ça peut surprendre quelques chrétiens de lire ça, parce qu'ils diront, mais attendez, dans l'histoire du Pentateuque, il n'est pas question d'Église. Il est question de la manière dont Israël est rassemblé par Dieu. Mais pour Calvin, et ce sera un des traits plutôt sympathiques que nous retiendrons de lui ici, Calvin ne fait pas d'opposition entre l'Église et Israël. Calvin ne partage pas des thèses communes au christianisme médiéval qui dira, par exemple, que suite au rejet par Israël du Christ, Dieu a enlevé son alliance aux Juifs pour la donner à l'Église. Enfin, pas du tout cette idée-là. Il n'est pas non plus du tout de l'idée que l'Église est le vrai Israël, alors que le faux Israël serait en quelque sorte, aurait perdu ses titres de noblesse. Il n'est pas non plus du tout de l'idée que Israël est un peuple déicide et donc que Dieu, en quelque sorte, renoncerait à son alliance vis-à-vis. Pour Calvin, le fondement de l'alliance, c'est le mouvement de Dieu vers ceux qui l'élient. Et une fois que vous êtes élu par Dieu, par exemple que le peuple juif est élu par Dieu, l'alliance reste indéfectible. Israël pourra faire tout ce qu'il voudra, Dieu ne renoncera pas à son alliance parce que le fondement de son alliance n'est pas la sainteté du peuple, mais le choix, l'élection que Dieu a fait de son peuple. Donc, il peut y avoir une extension de l'alliance à l'Église, mais non pas une substitution de l'Église à Israël. De ce point de vue-là, on peut dire que le calvinisme n'a jamais été antisémite, contrairement à bien d'autres courants du christianisme, à commencer par le luthéranisme. Bon. Donc, première utilité, Dieu montre comment il dresse son Église, comment il la fait naître. Au reste, en ce que ce bon Père a toujours continué et poursuivi ses bénéfices envers le même peuple, c'est ce que je vous disais il y a un instant, voire jusqu'à combattre incessamment, coup sur coup, contre la méchante impiété de celui-ci, la malice détestable et la vilaine ingratitude. Donc, il ne dit pas qu'Israël est particulièrement saint ici, hein. Israël est présenté comme un peuple méchant, impie, malicieux, ingrat, etc. Bon. Mais la réponse de Dieu à toutes ces belles qualités qu'on présente pour Israël, c'est que Dieu, par ce moyen, n'a pas laissé de se montrer libéral envers ceux qui, par leur perversité, en étaient trop indignes. Et en cela, nous avons une déclaration trop notable de sa miséricorde incompréhensible. Donc, crois-toi, Calvin n'est pas antisémite, c'est pas un peuple juif est un peuple déicide, mais le peuple juif est en quelque sorte le paradigme du peuple à la nucrède. Ça ne changera rien à l'alliance, mais au contraire, ça montrera à quel point l'alliance de Dieu et sa bonté sont grands, puisque c'est ce peuple-là qu'il a choisi d'aimer par-delà tout le péché du peuple. Bon. Au fil continuel qu'il a tenu à gouverner son Église, on voit comme la constance de sa grâce ne se lasse jamais à entretenir, garder, enrichir et délivrer eux, ceux lesquels il a une fois pris en amour. Donc là, la position de Calvin est extrêmement claire. Dont nous avons appuisé ample matière de confiance et quand tirait ample confiance de la prière. Au reste, afin que nous ne doutions pas que les expériences qu'ont eues les enfants d'Israël de la grâce de Dieu, tant en leur commencement qu'en leur discours de leur état, nous appartient aujourd'hui, Moïse déclare que le fondement en a été l'adoption gratuite de Dieu, laquelle nous est commune avec les Juifs, depuis que notre Seigneur Jésus-Christ, ayant rompu la paroi, n'a pas dédaigné d'être notre chef. Vous voyez la thèse que soutient Calvin. Il y a une première alliance. La seconde alliance ne vient pas se substituer à la première. Israël reste le peuple élu, mais Dieu, en Jésus-Christ, a ouvert l'alliance aux païens. Donc vous retrouvez ici cette idée défendue par Paul dans l'Épître aux Romains, que les païens, l'Église telle que nous la comprenons d'habitude, n'est que une branche d'olivier sauvage greffée sur l'olivier franc qu'est Israël. Calvin ici va plus loin en quelque sorte, puisqu'il considère qu'il n'y a pas d'une part l'olivier franc qui serait Israël et les païens qui seraient l'Église, mais qu'il n'y a qu'une seule Église selon deux économies. Le peuple juif, c'est déjà l'Église, une seule Église, que Dieu se rassemble à travers l'histoire, selon des modalités ou des modularités différentes, mais c'est bien la même Église fondée sur la libéralité gratuite de Dieu. Donc ça, c'est en quelque sorte la première utilité de l'histoire du Pentateuque. D'autre côté, les horribles châtiments et notables qui y sont racontés par-ci par-là nous doivent bien instruire à la crainte de Dieu et nous donner horreur de l'offenser, afin que nous ne présumions pas d'être des enfants de Dieu en nous donnant licence de tout mal. Autant la première utilité de la loi était de nous montrer la gratuité de l'alliance et l'indéfectibilité de la miséricorde de Dieu, autant la seconde utilité de la loi, c'est qu'il ne faut pas rigoler. Et qu'il faut bien voir que si Dieu s'est comporté comme ça, avec d'horribles châtiments vis-à-vis d'Israël, il fera la même chose vis-à-vis du reste de son Église. Pourquoi ? Parce que Dieu déteste par-dessus tout, dit Calvin, les hypocrites. Ceux qui prétendent faire partie de l'Église et qui se donnent licence de tout mal, qui se permettent de faire tout et n'importe quoi sans observer la loi. Car si Dieu a si rudement puni l'idolâtrie, dit-il, les méchantes convoitises, les dissolutions, les rébellions et autres crimes, il nous faut apprendre de là qu'il ne déploie ses jugements en évidence autre part qu'en son Église, afin d'approprier aux hypocrites de notre temps ce qui est advenu à ceux qui se vantaient faussement d'être juifs. Oui.
Si certains se sont vantés faussement d'être juifs, c'est bien qu'il y avait une qualité qui venait d'eux, de leur comportement. C'est un discours qui est en quelque sorte opposé à celui de la grâce dont vous avez parlé.
Alors, il y a certainement, vous avez raison de dire qu'il y a une tension, évidemment, entre ces deux utilités. D'un côté, la miséricorde, d'autre côté, la rigueur. Ça ne veut pas dire que... Alors, là, je ne serais pas tout à fait d'accord avec la première partie de ce que vous avez dit. Ceux qui se vantaient faussement d'être juifs s'appuyaient, en quelque sorte, sur la miséricorde, non pas sur eux-mêmes, mais s'appuyaient sur la miséricorde, en disant, nous sommes le peuple élu, nous pouvons nous confier en la miséricorde de Dieu, la miséricorde de Dieu est indéfectible, donc finalement, ce que nous pouvons faire ne changera rien à notre appartenance au judaïsme. Évidemment, ce que Calvin ici a en ligne de mire, ce sont pas tellement les juifs de l'Ancien Testament, mais ce sont plutôt les chrétiens de notre temps, dit-il. Les chrétiens de notre temps qui, ayant découvert le salut par grâce, se disent qu'après tout, les œuvres n'ont pas beaucoup d'importance. Qui sont-ils, ceux-là ? Pas tellement les catholiques, parce que les catholiques, finalement, ne vendent pas tellement la grâce, ne vendent pas tellement le salut gratuit, mais c'est plutôt les luthériens, effectivement. Les luthériens qui diraient, une fois que nous avons le Christ, nous avons tout, et finalement, ça n'est pas par la loi, et ça n'est pas par le rapport à la loi, que nous montrerons que nous sommes de vrais chrétiens. Mais c'est par notre attachement à l'amour libéral que nous avons trouvé en Jésus-Christ. Donc vous voyez qu'ici, Calvin, évidemment, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que... Alors, quand vous dites que c'est les catholiques, ce n'est pas complètement faux non plus. Hein. Vous vous souvenez de ce que disait Matthieu Henry quand il, dans son argumentaire contre Calvin à propos du culte des images, disait de Calvin qu'il judaïsait, en disant qu'il voulait respecter une loi qui n'était plus valide pour les chrétiens. Donc, effectivement, Calvin va tenir en tension et ne pas voir d'opposition entre l'affirmation très claire de l'utilité du Pentateuque pour nous montrer l'alliance indéfectible de Dieu et la grâce d'un côté, mais de l'autre côté, la nécessité de suivre la loi et la rigueur que doit avoir un chrétien qui, sinon, serait un hypocrite et perdrait la qualité d'être chrétien. Donc vous voyez qu'il y a véritablement une dialectique et qui est explicitée par Calvin d'emblée au début de son long commentaire. La distinction de la doctrine, continue-t-il, est comprise sommairement en quatre membres par Moïse. Donc, vous voyez qu'il a dû certainement réfléchir longtemps avant de nous présenter tout ça sous une forme aussi synthétique. C'est très bien là où il va, une pensée systématique, extrêmement rigoureuse. Il nous présente les points essentiels qu'il va ensuite développer très longtemps. Alors il y a quatre membres de la doctrine de la loi. Pour disposer les cœurs du peuple à se montrer dociles et débonnaires, Moïse magnifie l'autorité de la loi par plusieurs titres. Ainsi, toutes les sentences qu'on rencontre de la dignité de la loi sont mises comme préface afin qu'elle ait envers nous telle révérence qu'elle mérite, et ainsi, quant à l'ordre, elle précède les commandements et seront mises comme au premier rang. Qu'est-ce que veut dire Calvin ici? Quels sont ces titres qui précèdent la loi et marquent son autorité? Alors, prenons le décalogue, par exemple. Qu'est-ce qui, dans le décalogue, à quoi fait-il allusion ici? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Eh bien, tout simplement que, par exemple, si vous prenez le décalogue commence en disant « Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'est libéré du pays d'Égypte. » De dire que c'est la loi qui est donnée par le Seigneur ton Dieu qui t'est libéré du pays d'Égypte signifie que ce n'est pas une loi humaine, que c'est la loi de Dieu et qu'elle tire son autorité de quelqu'un qui est en même temps infiniment au-dessus de nous et qui veut pour nous la vie. Le premier principe de la loi, c'est, et qui fonde son autorité, que c'est que cette loi est la loi de Dieu. Or, pour Calvin, c'est évidemment un point tout à fait essentiel et qui vous rappellera ce que je vous ai dit dans des cours précédents à propos du, vous savez, de l'escalier de l'académie, le commencement et la crainte de Dieu. Si je ne crains pas Dieu, si je ne vois pas que cette loi n'est pas la loi de moi, mais la loi du Dieu saint, je ne comprendrai rien à la doctrine de la loi. La seconde partie est des commandements auxquels Dieu a recueilli la règle de bien et justement vivre. Et combien que ce soit un bref sommaire, toutefois tout y est accompli, moyennant que nous n'en séparons pas les interprétations qui ont été ajoutées du législateur par-ci, par-là. Car combien qu'il y ait plusieurs choses outre les deux tables, toutefois, il n'y a rien qui diffère quant au sens. Par quoi il faut user de prudence, afin que les sentences rapportées chacune à son commandement nous rendent la loi entière. Que veut dire ici Calvin? La loi n'est que la loi, rien d'autre, hein, c'est certainement, mais davantage. Quel est ce bref sommaire de la loi auquel il fait référence ici? Le décalogue. C'est que la thèse ici qui est défendue par Calvin, c'est que toute la loi se rapporte au décalogue. Bien sûr, ça et là, on trouve d'autres commandements, mais si on fait usage de prudence, si on sait bien voir les choses, on verra qu'en réalité, les 613 commandements se rapportent à 10. Donc, quand il s'agira de faire un commentaire de la loi, il suffira, et c'est ce que fera Calvin, de prendre chaque fois un des 10 commandements, et de faire ensuite l'énorme effort de rapporter à ce commandement tous les commandements de la Bible qu'on peut rapporter à ce commandement qui fait partie des 10 commandements. Chacun des commandements doit pouvoir en quelque sorte donner une illustration ou un approfondissement de l'un des 10 commandements. Mais tout est contenu dans les 10 commandements. Le troisième membre de la doctrine consiste aux dépendances. Et là, Calvin va introduire une idée totalement originale par rapport à ce qu'il a dit dans l'institution de la religion chrétienne. Que sont les dépendances? Alors, évidemment, en français, dépendance, c'est quoi? Quelque chose qui est lié, mais quelque chose qui est subordonné. Quelque chose qui en dépend. Alors, quelles sont ces dépendances? Par lequel mot j'entends, au regard de la première table, les cérémonies et le service extérieur de Dieu, au regard de la seconde, les lois politiques. Donc, si on regarde bien le décalogue, vous savez, il y a les deux tables, la table de la relation à Dieu, la table de la relation au prochain. On doit pouvoir, dit Calvin, encore une fois, c'est une idée que vous n'avez jamais rencontrée jusqu'ici, et qui ne se trouve exposée que dans ce texte, à vrai dire, on doit pouvoir tirer parti de la première table pour savoir quelle est la bonne manière de rendre un culte à Dieu, les lois cérémonielles. Et si on regarde la seconde table, on doit pouvoir comprendre quelles sont les conséquences politiques qu'on doit pouvoir en tirer. Pourquoi, à votre avis, y a-t-il cette différence de dépendance? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas tirer des lois cérémonielle de la seconde table?
Par la nature des choses,
vous avez parfaitement raison. Par la nature des choses, puisque effectivement la seconde table règle les relations au prochain, donc ça n'a pas d'influence sur le rapport à Dieu. Et pourquoi ne peut-on pas, en principe, tirer de conséquences politiques de la première table? Parce que, politiquement, on ne peut pas savoir qui est le vrai Dieu. Puisque, Calvin l'a dit abondamment, le politique est fondé en principe sur la loi naturelle, et que par la loi naturelle, on peut peut-être avoir une petite compréhension de ce qu'est Dieu. Est-ce le vrai Dieu? Sans doute pas. Donc on peut tout au plus condamner l'athéisme, mais on ne peut pas tirer de conséquences politiques, principiellement, par la nature même des choses, comme vous l'avez dit il y a un instant, de la première table sur le plan politique. On va pouvoir tirer des conséquences religieuses de la première table, mais non pas des conséquences politiques. Est-ce que ce point-là est clair? Parce qu'il est évidemment assez décisif pour comprendre la position de Calvin. S'il n'est pas clair, interrompez-moi. Oui.
Excusez-moi, ça ne me paraît pas entièrement clair dans la mesure où la relation de l'homme à Dieu implique quand même un certain comportement.
Oui.
Un comportement nécessairement avec la relation avec le prochain.
Oui. Et Calvin pourra le montrer à certains égards lorsqu'il va parler, par exemple, des conséquences insidiales, comme il le dit, du respect du sabbat. Alors, par exemple, le respect du sabbat est un commandement biblique qui vise d'abord la relation à Dieu. Bon, on ne va pas travailler pendant le sabbat, ni faire travailler ses esclaves ou ses domestiques. Et Calvin va ajouter, ça aura des conséquences sociales. Et ça aura des conséquences quant à la relation à autrui. puisque par exemple mes domestiques ne vont pas travailler. Tant mieux pour eux. Et c'est bien le signe de quelque chose, de l'amour du prochain. Mais le fondement n'est pas la relation à autrui, le fondement c'est la relation à Dieu, et c'est de manière incidente, en quelque sorte, que ça a des relations au prochain. Donc la frontière n'est peut-être pas aussi nette qu'on le voudrait bien, et on va voir qu'en réalité elle n'est pas nette du tout, mais en principe on devrait comprendre la logique qui veut que les lois politiques dépendent de la seconde table et non de la première. Tout ce que Moïse a écrit, Calvin, de l'une et de l'autre table, ne tend qu'à une fin, ne tend à autre fin, pardon, qu'à faire dûment observer la loi morale. Souvenez ce que c'est que la loi morale, Calvin. La loi morale, c'est la loi d'équité. C'est la même chose, c'est les 10 commandements, ou le sommaire de la loi, ou encore, dans la relation à autrui, la règle d'or. Ceci nous est fort utile, dit-il, de savoir que tant les figures et cérémonies que les lois politiques ne changent et ne diminuent rien de la règle des 10 paroles, du décalogue, mais seulement sont des aides pour nous mener, quasi par la main, à servir Dieu et purement, et garder équité et droiture entre les hommes. Servir à Dieu d'un côté, c'est la première table. Garder équité et droiture entre les hommes, c'est la seconde table. Si vous avez le décalogue, si vous avez, on pourrait l'écrire, vous avez le décalogue avec ces deux tables en réalité, et puis il y a une table qui doit mener à équité et droiture dans les lois politiques, et puis une loi qui est, si on reprend les termes de Calvin, de servir Dieu purement. Et ça, ce sont peut-être pas les lois, mais disons les règles religieuses. Sur le principe, le schéma, je pense que vous l'avez déjà repéré, il est constant chez Calvin et il est d'une espèce de transparence, peut-être pas évangélique, mais en tous les cas systématique, magnifique. Ensuite, il va faire un petit commentaire pour chacune de ces deux branches, au fond, d'interprétation, de traduction de la loi. Il vient de préciser que ces traductions n'enlèveront rien à la règle des 10 paroles. Elles ne seront pas là pour se substituer à elles, mais pour simplement nous aider et nous mener quasi par la main pour donner une traduction pratique dans ces deux champs à la règle des 10 paroles. Nous savons, dit-il, que les prophètes ont eu un combat perpétuel avec le peuple des Juifs pour qu'en s'adonnant soigneusement aux cérémonies, comme si toute perfection et sainteté y eût été enclose, ne tenaient compte de vraie justice. Qu'est-ce que c'est la vraie justice sur le plan religieux ? Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais présenté à un moment donné, mais je vous ai donné beaucoup de textes, donc vous êtes tout excusé de ne pas vous en souvenir. Mais il y avait un texte, un des premiers textes que je vous ai donné, où Calvin disait « Il faut distinguer les choses terriennes des choses célestes. Il faut distinguer la vraie justice de la justice entre les hommes. » La vraie justice, c'est la justification. C'est la justification par la foi, c'est-à-dire c'est la parole de grâce que Dieu nous donne. La vraie justice, c'est tout autre chose, évidemment, que la justice politique. Et pour cette raison, hein, donc finalement, ici Calvin parle des prophètes qui ont été en combat perpétuel avec le peuple juif parce que le peuple juif voulait trouver des obligations religieuses qui l'écartaient de la justification gratuite par la foi. Hein? Alors c'était quoi ces obligations? C'était par exemple de créer des sacrifices, d'essayer d'acheter Dieu par tel ou tel comportement religieux, etc. Donc tout ça ne sert à rien. Donc si on comprend véritablement le sens du décalogue ou de la première table qui règle la relation à Dieu, on devrait, dit Calvin, eh bien voir que ce qu'ont dit les prophètes, c'est pour nous montrer quel est le sens de la vraie justice. Et pour cette raison, Dieu proteste qu'il n'a jamais rien commandé touchant au sacrifice. Il n'y a rien dans le décalogue qui a trait au sacrifice. Et pour cause, parce que même si le peuple juif a eu tout un culte sacrificiel, ça n'était pas ce que Dieu lui demandait. Moi, c'est ce Calvin. Donc, pour cette raison, Dieu proteste qu'il n'a jamais rien commandé touchant au sacrifice et prononce que toute façon de faire extérieure lui sont comme menu fatras et inutile. Dieu n'a cure de tous les actes religieux extérieurs. Ce n'est pas ça qui compte pour Dieu. Si on leur attribue le moins du monde de valeur outre les 10 commandements, dont nous avons à conclure que ce que j'ai touché est vrai, à savoir que toutes les additions qui sont mises avec les 10 paroles ne sont pas à proprement parler de la substance de la loi et n'emportent rien de soi quant au service de Dieu, et ne sont requises comme nécessaires ou même utiles si elles ne sont rangées en leur degré inférieur. Si vous avez à vous demander ce que vous avez à faire sur le plan religieux, écoutez ce que disent les prophètes, ils vous diront que 90% de ce que vous trouvez dans l'Ancien Testament est du menu fatras inutile, qui ne risque que d'obscurcir les choses, et la seule chose que vous ayez à faire, c'est de respecter les commandements de la première table. Ces commandements de la première table, c'est quoi? Je ne vais pas vous demander de réciter les 10 commandements. Non, dans la première partie, dans la première table.
Ne pas vénérer
d'autres dieux. L'interdit de l'idolâtrie. L'unicité de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ne pas prononcer le nom de Dieu en vain. Ne pas faire de... Ne pas jurer. Qu'est-ce qu'il y a encore? Le sabbat. Donc, c'est très très peu de choses.
En même temps, oui. La première partie de la table, c'est une relation entre Dieu et soi-même. La deuxième partie, c'est la relation entre soi et la société. Est-ce que ça concerne?
Oui.
Oui. Juste,
oui.
Est-ce que l'une est soumise à l'autre? Est-ce qu'on peut analyser la relation avec les autres sans avoir une bonne relation avec Dieu?
Alors, pour Calvin, il vous répondrait qu'évidemment, vous avez parfaitement raison. La seconde table est subordonnée à la première. Pour l'homme religieux. Pour l'homme religieux, le commandement proprement religieux, la relation à autrui, est plus importante que la relation à autrui. Mais, dit-il, c'est pas vrai pour l'homme profane. Pour l'homme profane, il ne voit que la relation à autrui et pas la relation à Dieu, ou il ne peut saisir quasiment rien de la relation à Dieu. Et puis, dit-il, pour le Christ, eh bien le Christ les met à égalité. Et dit même que c'est la même chose. Et voici le second qui lui est semblable, dit Jésus. Donc, pour Calvin, si vous voulez, il y a bien une espèce de subordination de la seconde table à la première, mais en réalité, les deux disent la même chose. Alors, si on revient à ce qui est dit ici, vous voyez que clairement, Calvin se situe dans la tradition des prophètes. Dans la tradition qu'aujourd'hui on appelle deutéronomiste. Cette tradition deutéronomiste dit que ce qui constitue Israël n'est pas le lien du sang, n'est pas le fait que les juifs descendent des patriarches. Qu'est-ce qui constitue Israël dans la tradition de Théronomiste? Le fait que Dieu a pris un ramassis de toutes sortes de gens qui étaient esclaves et les a fait sortir du pays d'Égypte. C'est Pâques. Ça tombe très bien puisque nous sommes dans la semaine pascale, la semaine sainte. Ce qui constitue véritablement Israël, c'est l'expérience d'une libération. Donc, il n'y a pas du tout chez Calvin l'idée que, en quelque sorte, on serait généalogiquement juif ou généalogiquement chrétien. Ce qui fait, vous savez, dans la liturgie de Pâques des juifs, dans la Haggadah de Pâques, il y a des rôles qui sont joués par différents personnages, et puis il y a un mauvais garçon. Et le mauvais garçon demande, mais qui est sorti du pays d'Égypte? Quelle est la bonne réponse? Alors, il va se faire réprimer, on va lui dire, non, réprimander. On va lui dire, non, tu t'es trompé, tu n'as rien compris. Pourquoi n'a-t-il rien compris? Parce qu'il n'a pas compris que c'est lui qui est sorti du pays d'Égypte. Et que si lui n'est pas sorti du pays d'Égypte, il n'est pas juif. Donc, ce qui constitue véritablement l'identité d'Israël, c'est, dans la tradition prophétique, pas le fait qu'on a des parents juifs, mais le fait qu'on a fait soi-même l'expérience spirituelle d'être sorti du pays d'Égypte. En somme, toutes les cérémonies du Calvin ne sont qu'accessoires, non pas pour ajouter une seule minute à la loi, mais pour entretenir les fidèles au service spirituel de Dieu, qui est de lui faire confiance, de se fier à lui et de s'assujettir par vraie repentance. Vous retrouvez ici la structure fondamentale chez Calvin de la promesse et de la loi, et de la foi. La promesse par laquelle Dieu dit sa miséricorde et la réponse de l'homme qui est de faire confiance à cette miséricorde. Bon. Mais aussi de l'invoquer avec louange, lesquelles montrent qu'on n'est pas ingrat devant lui, et aussi de s'humilier pour porter en patience toutes les afflictions. Et là, vous retrouvez une discrète allusion aux vertus, la patience, la tempérance, etc. Bon. Qu'en fait des commandements politiques? Voilà qui nous intéresse davantage aujourd'hui, même si le paragraphe est plus bref, par rapport à notre cours. Il ne s'en trouvera, dit-il, pas un qui ajoute à la perfection de la seconde table. Il s'ensuit donc qu'on ne peut rien imaginer pour régler les hommes à bien et justement vivre, outre le contenu des 10 paroles. Alors on va voir ce qu'il en tire ensuite dans son commentaire. Avant la pause, je voudrais juste avancer encore un paragraphe, si vous me permettez. La quatrième et dernière parole. Vous savez qu'il avait dit qu'il y avait quatre utilités à la loi. Donc, quelle est la quatrième utilité de la loi? La quatrième utilité de la loi montre la fin et l'usage de la loi. Et pour cette raison, l'utilité de celle-ci s'étend bien loin. Car de quoi nous profiterait d'être enseignés à bien vivre si nous ne connaissions pas de combien de fautes nous sommes coupables pour être tirés à chercher le remède? Quelle est cette dernière utilité de la loi? L'examen de conscience, ce savoir pécheur, se reconnaître pour ce qu'on est, et ça, vous vous souvenez, dans les usages de la loi, c'est l'usage dénonciateur de la loi qui vient nous montrer que nous ne sommes pas les gens super bien que nous avions envie d'être en réalité, mais que nous sommes de pauvres pécheurs qui avons besoin de la miséricorde de Dieu. La vraie finalité de la loi, elle est là, c'est pas simplement une finalité religieuse ou politique, elle est de nous tourner vers Jésus-Christ. Ainsi, ce que Dieu nous convie tant doucement par ses promesses et de rechef, foudroie par ses malédictions, c'est en partie pour nous rendre inexcusables, en partie pour nous abattre, en nous dépouillant de toute confiance de justice, afin qu'embrassant son alliance gratuite, nous soyons par ce moyen appris de nous adresser à Jésus-Christ, qui est la fin de la loi. Et c'est le but auquel tendent toutes les promesses, où il atteste qu'il sera propice afin de pardonner les péchés et offre la grâce de son esprit pour régénérer les hommes. Dont aussi cette sentence de saint Paul dépend que Christ est la fin de la loi. Quand saint Paul dit « Christ est la fin de la loi », Paul ne veut pas dire que Christ est la finalité de la loi. Paul veut dire « Christ met fin à la loi ». Or, Calvin ne l'interprète pas de cette manière-là. Tout est parti de la miséricorde de Dieu. Tout va vers la miséricorde de Dieu. Mais pour Calvin, comme on l'a dit d'abord, entre la miséricorde et la justice, il n'y a pas de contradiction. C'est la même loi, il y a peut-être une tension, mais il n'y a pas de contradiction. C'est la même loi. Et c'est pourquoi il précise, je ne sépare pas tellement cette partie, Paul, avec les autres, comme si elle n'avait rien à voir, comme si elle n'avait rien de commun. Car, avant que nous venions à la déduire, il nous faudra bien souvent traiter tant de la ruine et misérable condition du genre humain, que du bien singulier que Dieu fait à ses fidèles en les adoptant et de la persévérance de sa faveur et bonté paternelle. Car tous les sacrifices et ablutions ne se peuvent rapporter à autre fin sinon que Dieu sera toujours pitoyable pour recevoir les pauvres pécheurs à merci, à miséricorde, quand ils auront leur refuge au pardon qu'il leur a promis. Texte magnifique, vous voyez combien il est dense, précis, construit, tout part de la miséricorde, tout va à la miséricorde, mais entre les deux, il y a cette fonction de la loi qui est de forger un peuple saint. Alors on va voir comment Calvin le met en œuvre, et plus précisément, on va voir dans la seconde heure les points les plus critiques de cette mise en œuvre, parce qu'il y a des choses tout à fait passionnantes et merveilleuses dans ce texte, dans le développement de ce texte, et puis il y a des choses terrifiantes, donc on va regarder les choses terrifiantes. Le croyant, avec ce grand schéma qui part de la miséricorde, qui va à la miséricorde, devrait pouvoir librement réinventer, en quelque sorte, à partir du décalogue, en prenant certainement exemple des récits bibliques, mais sans être lié aux récits bibliques, en étant lié en quelque sorte qu'à la relation vivante qu'il a à Dieu à travers le Saint-Esprit et au décalogue, trouver une manière de réinventer en quelque sorte ce qu'on trouve dans la Bible et le réinventer de manière nouvelle dans sa conscience. Ça, vous trouvez toute une série de textes de Calvin qui vont aller dans ce sens-là et qui vont ensuite, plus tard, expliquer pourquoi le protestantisme a été tellement attaché à la liberté de conscience, voire même au libre examen, et fondamentalement, disons, à la liberté. Je vous cite juste un texte que vous n'avez pas sur les feuilles, qui dit ceci: on ne doit pas imposer nécessité aux consciences dans les choses pour lesquelles elles sont affranchies par Jésus-Christ. On ne doit pas imposer aux consciences de choses. Il faut, dit-il, que les consciences reconnaissent pour leur seul roi un seul Christ, leur libérateur. Si elles reconnaissent un seul Christ comme libérateur, elles ne doivent reconnaître ni l'Église, ni l'État. Leur seul vrai maître, c'est Jésus-Christ. Et il faut qu'elle soit, dit-il, gouvernée par la seule loi de la liberté, qui est la sacrée parole de l'Évangile, et qu'elle ne soit assujettie à aucune servitude, ni captivée sous quelque lien. Donc la thèse est très, très simple, très claire. C'est chaque croyant, dans sa conscience, qui doit pouvoir réinventer les choses. Le problème, c'est que Calvin est partagé entre ça, d'une part, et d'autre part, sa responsabilité de chef d'église. Si on laisse chaque conscience libre de trouver ce qu'elle veut, de penser ce qu'elle veut, et de réinventer les choses à partir de ce qu'elle trouve dans la loi et dans la relation vivante qu'elle a avec Dieu à travers l'Esprit Saint, il y a malheureusement fort à parier que les choses iront dans le désordre. Et là, Calvin a un autre souci, qui est l'ordre. Et donc, dans le même texte de l'institution, Calvin va défendre l'idée qu'il faut qu'il y ait une discipline dans l'Église. Une discipline qui vise l'ordre, précisément. Une discipline qui a pour but trois choses. D'abord, de protéger la communauté pour qu'elle ne devienne pas le refuge de gens méchants. D'autre part, éviter la contamination des bons chrétiens. Et enfin, réformer les mauvais chrétiens. Si vous vous donnez pour but, et pour but à la discipline, de réformer les mauvais chrétiens, d'éviter la contamination des bons chrétiens par les mauvais chrétiens, et puis d'éviter que l'Église puisse être le refuge des scélérats, eh bien évidemment, il va y avoir une autorité dans l'Église qui va dire qu'est-ce que c'est qu'un bon chrétien, qu'est-ce que c'est qu'un mauvais chrétien, et quelles sont les frontières de l'Église. Alors, certainement, Calvin est partagé, tiraillé entre les deux choses, mais à partir du moment où, dans ce commentaire des livres de Moïse, il va se donner pour but de définir quelles sont les dépendances religieuses et politiques de la loi, il va avoir un rôle normatif. Il va en quelque sorte se substituer à la liberté de la conscience devant Dieu pour déterminer quelles doivent être les conséquences religieuses et politiques que on doit pouvoir tirer de la loi. Et donc Calvin va faire exactement ce qu'il ne voulait pas faire. Alors, ici je ne vais pas entrer dans le détail de chacune des dépendances que Calvin va tirer de chacun des commandements du décalogue. Ça nous prendrait beaucoup de temps. Beaucoup de temps puisque, comme je vous l'ai dit, pour chaque commandement, il va faire un inventaire extrêmement précis de tous les passages bibliques qui se rapportent à ce commandement. Comme vous avez 613 commandements, comme vous avez 10 commandements dans le décalogue, en gros, ça veut dire que, même si évidemment c'est pas tout à fait juste, mais en gros, ça veut dire que pour chacun des commandements, vous aurez le commentaire de 60 passages bibliques qui se rapportent à chaque commandement. Et au sein de ces 613 commandements, vous aurez à boire et à manger, pour le dire gentiment. Vous aurez des choses très importantes, puis vous aurez des choses qui le sont nettement moins. Logiquement, donc je vais tout d'abord me cantonner aux dépendances politiques, en laissant de côté les dépendances cérémonielles, les dépendances proprement religieuses. Si on se concentre sur les dépendances politiques, eh bien, on va voir que Calvin va défendre des positions qui vont aller dans le sens du droit pénal. Est-ce par fanatisme? Calvin va dire que c'est certainement pas par fanatisme, mais c'est tout simplement, écoutez bien la saveur de l'argument, parce que on le fait par humanité, parce que si ce n'est pas l'homme qui punissait les méchants, Dieu les punirait encore plus méchamment que nous. Je cite Calvin. Comme aujourd'hui, tout ce qu'on met en avant de l'écriture contre les abus et façons qu'on trouvait de servir Dieu est autant estimé comme rien en la papauté, parce qu'ils se plaisent et sont endormis en leurs idolâtries, en les fardant de toutes sortes de belles couleurs. Or, après que Dieu a commandé au juge de punir ses crimes en telle rigueur qu'il appartient, il les menace, grand et camp, que s'ils sont des aveugles et s'ils dissimulent, lui-même, Dieu, en fera vengeance et poursuivra plus rudement, ceux qui auront échappé de la main des hommes. Donc, par humanité, on a intérêt à châtier les méchants pour les protéger en quelque sorte contre Dieu. L'argument est un peu bizarre. Mais il va néanmoins trouver de nombreuses applications, et des applications d'autant plus étranges pour nous que ces applications vont aller jusqu'à la peine de mort. Alors, bien sûr, on peut tuer quelqu'un en disant que Dieu va le punir encore plus méchamment si on ne le met pas à mort, mais bon, on ne voit pas très bien ce que Dieu lui ferait, en tous les cas, sur cette terre, que de le mettre à mort. Qui est mis à mort, à votre avis? Alors, commençons par la seconde table, puisque on a vu qu'Alvin nous dit c'est en fonction de la seconde table qu'il faut tirer des lois politiques. Alors, quelles sont les contradictions de la seconde table qui devraient entraîner théologiquement la peine capitale? Qu'est-ce que pourrait faire quelqu'un qui réclame la peine capitale? Alors, par exemple, effectivement, l'infanticide. Quelqu'un qui tuerait son enfant, est-ce qu'il mérite la peine de mort? Quelqu'un répond oui. Je prends cet exemple-là en disant, effectivement, quelqu'un qui, normalement, Dieu a voulu que les parents prennent soin de leurs enfants, et un père ou une mère qui tuerait son enfant devrait mourir. De la même manière qu'un parricide devrait mourir. Parce que non seulement il ne respecte pas, son proche, mais il refuse de respecter son père ou sa mère, il refuse d'être engendré par un autre, et donc il refuse sa propre origine et il mérite la mort. Y a-t-il d'autres cas qui, à votre avis, méritent la mort? Je vous demande pas ce que vous en pensez, vous, mais qu'est-ce que, à votre avis, Calvin va défendre, comme on dit? Non, mais on est dans la deuxième table. L'adultère. Donc, je vous ai mis ici un passage. Attendez, où est-ce que c'est? Voilà. C'est la citation 2. Alors, ça, c'est pas tiré du commentaire des 5 livres de Moïse, c'est tiré du commentaire qu'il fait du Nouveau Testament. Vous savez que dans le Nouveau Testament, il y a un passage très célèbre où Jésus est confronté à la femme adultère. Et que fait Jésus? Il pardonne. Hein, il lui dit ne plus pécher, certes, mais il n'est pas du côté de ceux qui veulent la lapider. Quand la loi juive cette femme adultère doit être lapidée et Jésus refuse de lapider cette femme. Il faut vous dire que ce texte de Jean 8 a eu beaucoup de peine à s'imposer parmi les chrétiens. Encore un père de l'Église important qui s'appelle Tertullien disait, si vous maintenez ce texte dans l'Évangile, on peut faire de l'Évangile l'enseigne des bordels. Et Tertullien demandait qu'on supprime ce texte de l'Évangile. Et toute une série d'autres avec lui. Alors Calvin, sans doute, aurait aussi aimé qu'on supprime ce texte de l'Évangile. Alors voilà ce que dit Calvin. Écoutez bien les arguments qu'il va donner, parce que c'est quand même embêtant pour un réformateur qui dit « on va suivre l'Écriture seule » et qui va prendre un point de vue résolument contraire à celui de Jésus. Voilà ce que dit Calvin. Donc, il n'est pas parlé ici que Jésus-Christ ait absous cette femme purement et simplement, mais qu'il l'a laissée aller à sa liberté. Donc, premièrement, il dit il ne la pardonne pas, il la laisse aller. Et il ne faut pas s'en ébahir, car il n'a pas voulu, car il n'a rien voulu entreprendre qui ne fût de son office. Le Père l'avait envoyé pour recueillir les brebis perdues. Par quoi, se souvenant de sa vocation, il exhorte cette femme à repentance et la console par la promesse de grâce. Ceux qui recueillent de ceci que les adultères ne doivent pas être punis de mort, aussi faut-il nécessairement qu'ils accordent ceci, qu'on ne doit partir les héritages, d'autant que Jésus-Christ ne s'est pas voulu imposer arbitre entre cette affaire entre deux frères. Quel est l'argument ici? Qu'est-ce que vient faire cette histoire d'héritage? Eh bien, tout simplement, Calvin est en train de nous dire, si vous vouliez suivre ici l'Évangile à la lettre, en disant qu'on ne doit pas trouver de conséquences politiques de la punition de l'adultère, alors à ce moment-là, vous devriez faire la même chose, puisque Jésus n'a pas voulu partager. Vous savez, à un moment donné dans l'Évangile, il y a deux frères qui viennent vers Jésus et qui lui demandent de les aider, qui demandent à Jésus de les aider pour partager leur héritage. Et Jésus dit, je n'ai pas été institué pour être faiseur de partage entre vous. Allez vous débrouiller tout seul. Et donc, si on voulait tirer des conséquences de l'Évangile, en l'occurrence pour ne pas faire quelque chose, à ce moment-là, il faudrait qu'on soit conséquent. Il faudrait aussi qu'on dise sur le plan civil, il n'y aura plus d'héritage et l'État ne se mêle plus de savoir comment doivent être réglés les héritages. Pourquoi est-ce qu'il invoque cet argument? Pour dire, si on ne faisait plus d'héritage, la société serait dans un désordre et le droit ne serait plus respecté. Donc, peut-être Jésus a-t-il eu raison dans un cas particulier de ne pas vouloir régler une différence d'héritage, de même que dans un cas particulier, il a laissé aller une femme adultère, mais ça ne veut pas dire qu'il faut que nous laissions aller les femmes adultères, de même que ça ne veut pas dire qu'on doit s'abstenir de régler juridiquement les questions d'héritage. Faut tuer? Lui, il pense qu'il faut tuer les femmes adultères. Vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Il y a une chose qu'il faut dire, c'est que dans les pays réformés, c'est les seuls endroits au monde où au XVIe siècle, on punissait les hommes comme les femmes d'adultère. On ne les tuait pas d'ailleurs. On les exposait publiquement. On leur faisait honte. Hommes comme femmes. Et homme comme femme, on jugeait par exemple que si un maître avait une relation sexuelle avec sa servante, eh bien, il devait être puni de la même manière que si c'était avec une femme de sa condition sociale. Ce qui faisait rire les Français au XVIe siècle terriblement. Non, disons que à l'époque, on considérait que il y avait des vraies relations extra-conjugales et des relations conjugales qui n'en étaient pas. Extra-conjugales qui n'en étaient pas. Et puis si de temps en temps le maître allait dans la chambre de sa servante, tout le monde fermait les yeux. Et au XVIe siècle, il n'y a qu'à Genève qu'on ne ferme pas les yeux. Donc, il y a une certaine... Calvin va être en quelque sorte assez conséquent, enfin, pas complètement conséquent, parce qu'il ne va pas mettre les gens à mort alors qu'il dit qu'il faut mettre les gens à mort. Et puis, il sera aussi assez conséquent, c'est-à-dire qu'il considérera que ce soit votre servante ou pas votre servante, ça doit être la même chose. Et que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, ça doit être la même chose, oui. Voilà, on va lire la suite du texte de Calvin. Il n'y aura méchanceté ou crime qui ne soit exempté des peines, des lois, si des adultères ne sont punis. Deuxième argument, c'est que si vous laissez la porte ouverte pour ne pas punir les adultères, alors vous n'aurez plus aucun argument pour ne pas punir les autres crimes. Car lorsque la porte sera ouverte à toute déloyauté, empoisonnement, meurtre et larcin, vol, Joint que quand une femme adultère supposera un enfant bâtard avec les légitimes. Lorsqu'une femme adultère, finalement, elle élèvera, fera pas la différence entre les enfants adultères, entre les bâtards et les enfants légitimes. Non seulement elle dérobe le nom de famille, elle fait porter le chapeau à son mari, et elle donne le nom de famille à l'enfant bâtard, mais ravissant le droit d'oirie à lignée légitime, elle le transfère à des étrangers. Donc finalement, elle partage le bien de la famille à l'enfant bâtard. Ce qui pour Calvin est une injustice profonde. Mais voici encore le pire, que la femme qui était adjointe à son mari met son mari à déshonneur. Et se prostitue soi-même à vilaine méchanceté, et quand elle viole l'alliance sacrée. C'est quoi l'alliance sacrée ici? Le mariage. Sans laquelle aucune sainteté ne demeure en son entier dans le monde. Et toutefois, après il y a un passage contre les catholiques, bon, ce qui dit les catholiques qui ne croient jamais à la loi de grâce, tout à coup à propos de Jean VIII, évoquent la loi de grâce, donc c'est n'importe quoi. Et puis ils finissent par ceci. Retenons ceci, que Jésus-Christ pardonne tellement les péchés aux hommes, certainement, que toutefois, il ne renverse point l'ordre politique et n'abolit pas les jugements et punitions ordonnés par les lois. Donc, vous voyez, ce n'est pas absolument terrible comme interprétation de Jean 8. Donc, quand il reprend le même passage dans le commentaire des cinq livres de Moïse, ils vous disent, c'est ce que je vous ai résumé dans la citation 3, par le droit commun de toutes les nations, les adultères ont été punis mortellement, peine de mort, et d'autant est-ce plus grande vilenie aux chrétiens, pour le moins, de ne pas suivre les païens et gens profanes. Les adultères sont aussi rigoureusement punis par la loi de Jules César que par celle de Dieu. Qu'est-ce que vous pensez, l'argument? L'argument nouveau. D'abord, c'est faux, et encore si c'était vrai, si le droit romain punissait les adultères, est-ce que ça aurait une valeur contraignante pour les chrétiens? Eh oui. Et vous voyez qu'ici, dans l'interprétation que fait Calvin, tout à coup, comme il a défendu que dans le décalogue, Il y avait une petite partie du décalogue. Hein, c'est volontairement que je mange un tout petit peu sur la première table. Mais qu'en gros, il y avait une partie du décalogue qui était la loi naturelle, exprimée notamment à travers les auteurs de l'Antiquité. Eh bien, il faut au moins que les chrétiens reprennent cette partie-là pour eux. Mais s'il y a contradiction entre cette partie-là qui a été repérée par les auteurs antiques et les chrétiens, et même Jésus en l'occurrence, il faut préférer les auteurs antiques. Et donc, Calvin va trouver parfaitement juste de tuer les adultes. Oui. Du mariage? Parce qu'il n'a pas été institué par le Christ. La définition que les protestants vont donner des sacrements est très très simple. Ils reprennent la définition de saint Augustin. Ils vont dire un sacrement est une parole visible. Parole visible, ça veut dire qu'il faut que Jésus-Christ ait institué le sacrement et que ce soit en quelque sorte un évangile visible. Alors ça n'est le cas que pour deux sacrements. La Sainte Cène et le baptême, parce que c'est les deux seuls sacrements qui ont été institués par Jésus-Christ, mais il n'empêche que pour Calvin, le mariage, comme l'ordination, hein, comme la consécration des pasteurs, est quasiment un sacrement. Parce que ça comporte quelque chose de sacramentel, comme on dit en théologie. C'est-à-dire que, à travers l'union des époux, doit pouvoir se voir quelque chose de l'amour du Christ pour son Église. Donc, mais ça, on pourra revenir plus loin dans le cours sur les sacrements. Mais en l'occurrence, vous voyez, oui.
Excusez-moi, mais j'ai de la peine à comprendre comment un homme qui cultive et qui a vu tellement les anciens pouvait ne pas avoir la contradiction flagrante entre le droit grec ou romain et les dépendances qu'il trouve dans les du décalogue. C'est invraisemblable.
C'est invraisemblable.
Ou alors ça veut dire qu'il est un peu de foi, excusez-moi de dire sérieusement, mais c'est incompréhensible.
Comme c'est un homme supérieurement intelligent et cultivé, je crois qu'il n'est pas de bonne foi. Donc, les adultères sont potentiellement liquidés. Ceux qui sont aussi potentiellement liquidés, ce sont les homosexuels. Parce que, évidemment, l'homosexualité est jugée par Calvin comme étant contre nature. Mais si encore il n'y avait que les adultères et les homosexuels, on serait content. Parce que sont aussi condamnés à mort les enfants qui insultent leurs parents. À mort. Car comment pourrait-on être, dit-il, d'une nature si revêche et intraitable que de dédaigner l'autorité de père et de mère et de ne pas en tenir compte. Sont condamnés aussi à mort les hommes qui ont une relation sexuelle avec leur femme pendant les règles. À mort. Parce que, dit-il, de quelle vilainie s'abstiendra celui qui tombe dans une telle intempérance qu'il rompe de sa furie les obstacles qui retiennent même les bêtes brutes. Les animaux n'ont pas de relations sexuelles pendant les règles, alors que les hommes potentiellement en ont. Donc, ils doivent être condamnés à mort. Alors, certes, de tels exemples ne font jamais appel à une interprétation exclusivement chrétienne, parce qu'il n'y a rien évidemment dans l'évangile là-dessus, ni dans l'Ancien Testament d'ailleurs. Mais, et souvent elle prend appui sur des auteurs de l'Antiquité. Mais évidemment, elle nous fait froid dans le dos. Et ça nous fait encore plus froid dans le dos quand on voit les conséquences politiques, les dépendances politiques que Calvin va tirer de la première table du décalogue. Normalement, on l'a dit abondamment, on ne devrait pas en tirer. Ou si on devait en tirer, ça ne devrait être que de la condamnation de l'athéisme. Mais en réalité, eh bien, ça va aller beaucoup plus loin. Alors je laisse de côté la citation 5 qui, pour vous montrer que c'est complexe ce système-là, dans la citation 5, Calvin va plutôt exhorter les magistrats à la clémence. Tant mieux, un petit peu rassuré. Hein, je lis juste le dernier paragraphe de la citation 5. Au reste, comme Dieu donne charge aux gouverneurs et gens de justice d'avoir la religion pour recommander afin de châtier ceux qui la troubleront, aussi à l'opposé, il prévient le vice commun qu'on ne se jette pas à la volée de zèle inconsidéré à exercer contre les innocents à la rigueur. Bon, ouais. Donc là-dessus, on est plutôt rassuré, mais la suite du texte montre que non seulement les athées sont condamnés à mort, mais les impies, les faux prophètes, les sorcières et finalement les hérétiques. Normalement, Calvin, vous disiez tout à l'heure, ou bien il n'a rien compris, ou il est de mauvaise foi, il est de mauvaise foi. Il est d'une parfaite mauvaise foi même, parce qu'il a montré sur toutes les manières possibles qu'on ne devrait pas condamner les hérétiques sur le plan civil. Et c'est ce qu'il dit constamment dans l'institution quand il s'adresse au roi catholique. Mais ici, il va vous dire, par exemple, il commente le passage de Deutéronome 13, qui enjoint de passer par le fil de l'épée les habitants des villes qui ont été livrées par Dieu lors de la conquête du pays. Et Calvin avoue qu'il regrette qu'un tel principe n'ait pas été systématiquement appliqué depuis les origines du christianisme. Et il fait ce commentaire: si ceux qui, du commencement, ont fait une protestation de chrétienté eussent été enflammés d'un vrai zèle, la vraie religion n'eût pas été étouffée et quasi du tout éteinte par tant de corruption et abus, comme on le voit dans l'Église de Rome. Autrement dit, si Dieu livre une ville aux protestants, ce qu'il devrait faire, c'est de passer les catholiques par le fil de l'épée. Alors, il s'empresse d'ajouter qu'une telle rigueur ne s'applique que là où le christianisme est déjà établi. Donc vous pouvez faire ça quand vous arrivez dans une ville de France, mais pas quand vous allez au Brésil.
Pourquoi?
Ben parce qu'à l'époque, le Brésil n'est pas chrétien. Donc quand les protestants vont aller au Brésil, ils vont respecter beaucoup les indigènes brésiliens. Mais évidemment, cette concession ne suffit pas à nous rassurer. Il fait ce commentaire: cependant, qu'ils nous souviennent toujours de ce point, qu'on ne doit pas user de telle rigueur, sinon quand la religion qu'on ébat et qu'on ruine, non seulement est avouée par le consentement des hommes, mais bien approuvée, tellement qu'il apparaît que nous maintenons la cause de Dieu contre ses ennemis. On dit, quand vous êtes sûr que vous êtes du bon côté, là vous pouvez y aller. Alors, comme en principe les protestants sont du bon côté, ils peuvent y aller. Les catholiques, eux, ne devraient pas y aller, puisqu'ils ne sont pas sûrs de la vraie interprétation qu'ils donnent. Donc les catholiques devraient faire preuve de clémence, mais pas les protestants. Et puis je vous ai encore mis, je crois, une autre citation. Oui, parce qu'il se demande longuement, est-ce que les juges doivent faire preuve de clémence? Parce que même si le droit est clair, est-ce que finalement les situations devraient exhorter les juges à la clémence? Et puis il dit que finalement non. Aucun motif ne doit atténuer la peine capitale. Et il fait ce commentaire: s'il ne nous semble pas raisonnable que toute la race des méchants soit exterminée du monde, sachons que nous fraudons Dieu de son droit en mesurant à notre sens propre sa hautesse infinie, laquelle les anges adorent avec admiration. Donc, si nous-mêmes on se mettait à la place de Dieu pour dire « bon là c'est quand même un peu sévère », alors on ne respecterait pas la différence qu'il y a entre Dieu et nous, et les anges trouvent que ce que dit Dieu est admirable. Donc pourquoi est-ce que nous, on commencerait à juger Dieu de là où nous sommes? Et d'ailleurs, pour que ce soit tout à fait clair, il finit par condamner à mort aussi ceux qui commencent à trouver que Dieu ne fait pas très bien les choses. C'est juste avant de mourir. Et puis, je passe sous silence toutes sortes de gens qui condamnent à mort aussi en passant. Par exemple, ceux qui ont été protestants et qui reviennent au catholicisme, évidemment. Ou ceux qui, effectivement, tiennent des propos déshonnêtes et qui se moquent en accusant Dieu d'injustice ou de cruauté. Donc cela aussi doit être condamné.
Quelle leçon est-ce qu'on a le sens? Il était très terriblement.
Ça n'excuse rien.
J'entends bien, je vais un peu comprendre.
Non. Non, je ne crois pas, parce que c'est un homme, si vous voulez, qui est tellement fin, et j'aurai l'occasion de vous montrer dans le même commentaire, qui fait qu'il a une analyse tellement fine, vraiment raffinée, subtile, profonde, véritablement profonde, qu'on ne peut pas se dire c'est un type malade qui est devenu sénile à la fin de sa vie. Vraiment pas. La sainte. Non, il veut la sainte. Il veut débarrasser le peuple de la pollution, de l'ordure, comme il dit. Il veut faire advenir par le pouvoir politique une communauté de saints. Il veut que, finalement, ce qu'Israël n'a pas réussi à faire dans l'Ancien Testament puisse enfin se réaliser. Et si ça ne peut pas se réaliser librement par la conscience des gens, alors ça doit se réaliser par la force. Ce qui est très très troublant, bon, alors j'en viens maintenant dans le quart d'heure qui reste, il y aurait beaucoup de textes encore pour estimer, quelques commentaires pour finir avant Pâques sur cette éthique politique de Calvin. Ce qui est très troublant d'abord, c'est que lorsque Calvin a été en mesure de faire appliquer quelque chose à Genève, il n'est jamais allé dans cette direction-là. Ça donne à penser. C'est-à-dire qu'il y a visiblement un décalage entre ce qu'il écrit et ce qu'il fait. Et lorsqu'il est, par exemple, on parlait de sa position face à l'adultère, quand il est à Genève, il y a ce qu'on appelle à l'époque le consistoire. Le consistoire, 2 heures par jour, il écoute des histoires de gens. De gens qui sont amenés à justifier leur conduite devant le consistoire parce que l'un a couché avec l'autre et puis qu'un tel, il y a une rumeur qui dit qu'un tel, etc., etc. Et il passe des heures, 2 heures par jour à essayer de rabobiner les gens. Et jamais les condamner. De temps en temps, il leur dit, bon ben toi, tu pourras pas communier pendant un mois. C'est ça le genre de peine qu'il donne. C'est jamais des peines civiles. Il n'avait pas le pouvoir, mais il n'a pas cherché à, dans certains cas, il ne se gêne pas de dire au magistrat, au moins à Saint-Pierre le dimanche, ce que le magistrat devrait faire. Et il n'est jamais allé dans ce sens-là. Donc, là, il y a quelque chose d'assez troublant. Deuxième chose qu'il faut dire, c'est que Calvin, effectivement, est de mauvaise foi. C'est-à-dire qu'il change totalement de discours lorsqu'il s'adresse à un prince catholique ou lorsqu'il s'adresse à un prince protestant. Et qu'il y a une fascination chez lui du pouvoir politique. C'est une vieille histoire dans le christianisme. Le christianisme a très souvent été fasciné par le pouvoir politique en essayant de tirer parti de sa proximité avec le prince pour faire valoir quelque chose de l'évangile par la force.
Il n'y avait pas la crainte de faire Dieu, parce qu'il savait que Dieu n'aimait pas les hypocrites.
Oui, il veut, effectivement, il veut que les gens soient conséquents. Alors, si les gens ne sont pas conséquents tout seuls, Il faut les forcer à être conséquents. Mais lui, il pense qu'il est conséquent, alors. Évidemment, le problème, quand vous dites qu'il est lui-même inconséquent, ça c'est une autre question pour nous, qui est de savoir, est-ce qu'il interprète bien la Bible? Et est-ce qu'il a raison de privilégier la sainteté à la justice? Ou la sainteté, ou la justice, par exemple, plus exactement, à la miséricorde? Est-ce que c'est ce que nous demande l'Évangile? De créer une communauté de saints. Pas du tout évident. Pas du tout. Il me semble que Jésus a passé de nombreux moments dans sa vie à dire de ne pas juger. Hein? Puisqu'on est dans le temps de Pâques, vous savez pourquoi Jésus n'ouvre pas la bouche pendant son procès? Tout simplement parce que s'il ouvrait la bouche, il jugerait. Et il ne veut pas ça. Alors, pourquoi est-ce que Calvin se permet de faire mieux que Jésus?
C'est dangereux de vouloir faire mieux que Jésus.
Troisième remarque, c'est que ça n'est pas propre à Calvin. Théodore de Bèze, son successeur, fera exactement la même chose. Quand Théodore de Bèze s'adressera à un prince catholique, il dira une chose. Il dira, il faut plaider pour quelque chose comme la démocratie, il faut respecter les magistrats inférieurs, il faut respecter le droit, etc., etc. Quand Théodore de Bèze s'adresse à l'amiral de Coligny, ça vous dit quelque chose, l'amiral de Coligny, c'est le chef des protestants français au moment de la Saint-Barthélemy, eh bien, le même Théodore de Bèze va dire à l'amiral de Coligny qu'il doit prendre exemple sur les bons rois David, Salomon, Josaphat, Ézéchias, Josias, tiens, encore toujours les mêmes, et même Constantin et Charlemagne, dit Bèze. Voilà des bons rois pieux qui ont usé de leur pouvoir pour vider les idoles des temples. Et donc, le discours de les chefs protestants va être évidemment d'être, dit Bèze, les mainteneurs et garants de l'ordre que Dieu a donné à l'Église contre tous les troubleurs incorrigibles et scandaleux par fausse doctrine comme le font les hérétiques ou par vie scandaleuse comme le font ceux qui méprisent les censures ecclésiastiques. Comme on dit, l'Église a une autorité de censurer, et ceux qui méprisent les censures de l'Église devraient être punis, dit Bèze, par l'État. Quatrième remarque. C'est que deux lectures de Calvin sont possibles. L'une qui va dire on s'en tient à ce que je vous ai lu tout à l'heure de Calvin dans sa préface au Livre des Moïse, qui va dire on s'en tient au décalogue. L'autre qui va avoir une vue beaucoup plus extensive de l'interprétation de la loi et qui va chercher à faire une communauté sainte. Ces deux héritages de Calvin se retrouvent dans les églises protestantes qui sont nés du calvinisme. Vous allez avoir un courant qu'on va appeler libéral et qui va plaider avant tout pour la liberté, et puis vous aurez un courant plutôt orthodoxe qui lui va plaider plutôt, un peu comme les communautés radicales, disons, du XVIe siècle, hein, les anabaptistes, qui va plaider pour faire une communauté sainte qui se retire. Entre ces deux courants, hein, ces deux visions de l'Église, une vision de l'Église qui est une vision d'Église où il y a toutes sortes de mélanges et où chacun est appelé à trouver son chemin, et puis une autre communauté où là, il y a un certain nombre de règles qui doivent dire comment vous devez vous comporter pour être un bon chrétien. Ces deux tendances-là qui historiquement ont été en conflit à peu près constant depuis 3 siècles, ces deux courants, en quelque sorte, peuvent également se reconnaître chez Calvin. Donc on ne veut pas dire qu'il y en a une qui lit bien Calvin et l'autre qui lit mal Calvin. Les deux choses se trouvent chez Calvin, on peut dire. Donc, même, c'est des querelles de famille, mais c'est des querelles de famille qui disent deux aspects de l'héritage du calviniste. Autre remarque, je ne sais plus où j'en suis dans mes numéros de remarques. Oui. Cinquième remarque, c'est qu'en lisant ces textes, on ne peut pas ne pas penser à ce que disait Bergson dans son livre très célèbre des deux sources de la morale et de la religion, lorsque Bergson oppose ce qu'il appelle la religion close et la religion dynamique. Et Bergson dit en substance ceci, je suis en train d'attraper froid parce que je suis en plein courant d'air, je vais vous faire. Bergson dit en substance ceci, la religion risque toujours de se replier sur un monde clos. Elle ouvre les choses et puis ensuite elle les referme. Et la seule manière que la religion ne se referme pas, c'est pour Bergson la vie mystique, la relation vivante à Dieu, de quelqu'un qui fait éclater en quelque sorte la fermeture de la religion sur la patrie, sur la défense des intérêts du peuple, sur la communauté sainte ou sur quelque chose comme ça. Or Calvin visiblement a privilégié, on peut trouver des traces d'un Calvin mystique, mais Calvin a privilégié ici la défense d'un mouvement, d'une institution, d'une église sur la mystique. Et c'est certainement une chose qu'il faut pouvoir dire de manière critique sur Calvin, parce que Calvin a encore une fois une grande pensée. Je sentais bien qu'à certains moments je suis extrêmement admiratif de Calvin, mais il faut pouvoir dire aussi que Calvin n'est pas un saint. Si Calvin avait été un saint, il aurait privilégié précisément sa relation vivante à Dieu sur le devenir de son institution. Mais il a privilégié son institution sur ce courant mystique. Calvin lui-même ne se voit pas d'ailleurs comme un saint. Il se voit comme un prophète, comme quelqu'un qui est chargé par Dieu de rappeler la vérité de Dieu. C'est pas un hasard si je vous ai dit tout à l'heure en lisant ces textes qu'il s'inscrit dans cette tradition des prophètes et de la tradition deutéronomiste. Mais qu'est-ce que c'est qu'un prophète lorsqu'il s'agit de politique? Si c'est quelqu'un qui veut se servir du pouvoir politique pour défendre ses idées religieuses, ça ne joue pas. Si c'est quelqu'un qui prétend que finalement la norme qui doit valoir, y compris en matière religieuse, c'est le droit naturel, ça ne joue pas non plus. Les prophètes de l'Ancien Testament, et jusqu'à Jésus lui-même, ont été des gens qui n'ont pas hésité à faire valoir quelque chose de religieux à l'intérieur du champ politique, que ce soit le pardon, que ce soit la miséricorde, ou que ce soit la justice comme clémence. Calvin le sait très bien, puisque lui-même, sa première œuvre littéraire a été le commentaire du De Clemencia de Sénèque, où il dit ces choses. Mais Calvin, en quelque sorte, s'est trahi lui-même, parce qu'il a privilégié, une fois encore, ce qu'il croyait être la défense du protestantisme contre la vérité de la parole dont il était porteur. Alors, c'est un petit peu triste en quelque sorte, mais ça nous oblige à repenser quel est le rôle de la religion dans l'espace public, y compris encore aujourd'hui. Et puis, tout à fait pour finir, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a une autre leçon que nous devons garder de ces textes terrifiants de Calvin sur l'éthique politique, c'est qu'il faut se demander quels sont, parmi les 613 commandements, ceux qui ont encore une pertinence. Calvin a eu raison de se poser cette question-là. Peut-être qu'il n'a pas fait le bon choix, mais il a eu raison de se poser cette question-là. Il a raison de nous obliger à nous demander que fait-on lorsque certains commandements nous dérangent. Est-ce que simplement c'est nous qui choisissons le commandement en fonction de ce qui nous paraît séduisant, pas séduisant? Est-ce que c'est nous qui sommes les interprètes de la loi? Et si oui, selon quels critères? Par exemple, sur l'adultère, on dira, mais au fond, ces textes nous dérangent, donc on les met de côté, d'autres textes nous plaisent, donc on les garde. Est-ce que, dirait Calvin, ça n'est pas se faire juge contre Dieu? Et si ça n'est pas se faire juge contre Dieu, pour quelles raisons, selon quels critères, on retient certaines choses ou pas d'autres? Et puis, dernière grande question que nous pose aussi Calvin, même si encore une fois lui n'y répond, sa réponse n'est pas forcément satisfaisante, c'est comment est-ce qu'on articule une éthique philosophique et une éthique proprement chrétienne? Est-ce qu'on peut dire tout à coup le commandement de Jules César et celui de Dieu s'accordent? Pourquoi? Qu'est-ce qui nous permet de dire une chose comme ça? Et qu'est-ce qui nous permet d'interpréter ou de hiérarchiser ou d'harmoniser l'un et l'autre? Autrement dit, même si Calvin ne donne pas toujours les bonnes réponses, il nous donne de bonnes questions.